Alors, à tout à l'heure, Edmond Sadaka, tout de suite, c'est le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. C'est avec vous, Marie Normand. Bonjour.
Et bonjour, Charlotte. Bonjour à tous.
Au sommaire, l'Amérique de Donald Trump avec cette histoire racontée par notre envoyé spécial, histoire d'un Mexicain renvoyé au Mexique où il ne connaît plus personne après 20 ans passés aux États-Unis. C'est dans Ciudad Juarez que Véronique Guémard l'a rencontré.
Dans ce journal aussi, un nouveau juge à la Cour suprême, Neil Gorsuch, choisi par Donald Trump, va prêter serment aujourd'hui et nous verrons concrètement les dossiers qui l'attendent. Ce sera avec vous, Harry Mipold. Bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
En Argentine, le cannabis légalisé lorsqu'il est prescrit par un médecin, des malades, des familles l'utilisent déjà pour se soigner, ce qui n'est pas du goût de tous les médecins.
Je comprends le désespoir de certains parents, mais il faut mettre en garde contre cet usage un peu sauvage de l'huile de cannabis. Chez les jeunes enfants, la marijuana perturbe le développement des réseaux de neurones et influe sur le métabolisme du cerveau.
Un reportage en Argentine à suivre.
Et au sommaire aussi la Guyane, déjà 3 semaines de mouvement social. Le président François Hollande appelle à la fin des blocages.
Aux États-Unis, les migrants sans papiers en règle ont de plus en plus peur de se faire expulser du pays.
Oui, on s'en souvient, Donald Trump s'était engagé pendant sa campagne à expulser tous les sans-papiers en visant surtout ceux qui ont un casier judiciaire. Mais même des migrants n'ayant commis aucune infraction se sont vus renvoyés dans leur pays ces dernières semaines, sans même avoir le droit à un avocat d'ailleurs. Et c'est le cas de Roberto Beristain qui vivait dans l'Indiana avec ses 3 enfants et sa femme, une citoyenne américaine, depuis de longues années. Sa femme d'ailleurs avait voté Trump et aujourd'hui il se trouve à Ciudad Juarez où Véronique Guémard l'a rencontré.
Ciudad Juarez, ville frontière côté mexicain de l'autre côté d'El Paso. C'est ici que Roberto Beristain s'est retrouvé mardi dernier expulsé de force par les autorités américaines.
Je vivais dans l'Indiana depuis presque 20 ans. J'ai obtenu mes papiers de sécurité sociale et mon permis de travail et j'ai acheté un restaurant. Mais quand je suis allé faire renouveler mon permis, c'est là que des agents de l'immigration m'ont expulsé. J'ai été transféré vers une dizaine de centres de détention pendant 2 mois, de l'un vers l'autre, puis on m'a expulsé. J'ai dit « je ne veux pas signer ». Ils m'ont répondu que tu signes ou pas, on t'expulse. Ils ont pris mes empreintes digitales et ils m'ont expulsé pour 10 ans.
Arrivé sans papier en 1998,
Roberto Beristain a connu sa femme dans un restaurant. Il y a 17 ans, ils se rendent aux chutes du Niagara et passent la frontière. Au retour, les autorités américaines le notifient d'un ordre d'expulsion. Une situation jamais réglée, malgré son mariage avec une citoyenne américaine et leurs 3 enfants nés aux États-Unis. Sa femme, d'origine grecque, a même voté pour Donald Trump.
Elle était pour Trump parce qu'il disait qu'il allait développer le pays et puis qu'il expulserait beaucoup de délinquants sans papier. On avait confiance parce que je n'avais rien à me reprocher, j'ai toujours travaillé et je me suis consacré à ma famille. On ne pensait pas que ça nous arriverait. Ma femme est très contrariée par ce qui se passe. En fait, elle a voté d'une certaine manière pour qu'on m'expulse. Ce n'est pas juste qu'ils expulsent des gens comme moi qui ont une famille. Je ne suis pas le seul, il y en a des milliers. Le simple fait d'être entré de façon illégale et on nous traite comme des criminels.
Lorsqu'il arrive mardi soir côté mexicain à Ciudad Juarez, il ne connaît personne. Il se rend à la maison du migrant, un lieu géré par le diocèse. Le père Javier Calvillo dirige le centre presque vide en ce moment, alors qu'il était plein avant l'élection de Donald Trump.
Maintenant, en 2017, les expulsions ont baissé. On a 1, 2 ou 3 expulsés par semaine. Mais que nous racontent les expulsés mexicains? Qu'on les arrête, qu'on les place en prison ou en centre de détention et qu'il y a beaucoup de Mexicains enfermés. Et puis, ici, continuent d'arriver des migrants d'Amérique centrale, d'Afrique, des Mexicains. Mais à Ciudad Juarez, avec le phénomène Trump, les migrants restent pour l'instant vivre ici.
Roberto Beristain va rester à Ciudad Juarez pour tenter d'obtenir un visa pour le Canada et se rapprocher de sa famille. Le lendemain, sur le pont qui enjambe le Rio Grande, arrive un autre Mexicain vivant au Kansas depuis 8 ans. Il vient lui aussi d'être expulsé. Véronique Guémard, Ciudad Juarez, RFI.
Et on passe à votre revue de presse des Amériques, Harry Mipold, à la une, la politique américaine à l'égard de la Syrie, mais aussi, on en parlait, la Cour suprême qui est désormais au grand complet.
Oui, ce lundi, le magistrat Neil Gorsuch, qui succédera à Antonin Scalia, prêtera serment. Ce sera En présence d'ailleurs du président Donald Trump, la prochaine réunion des 9 juges est prévue pour jeudi prochain. Neil Gorsuch trouvera sur son bureau de nombreux dossiers. Marie rappelle Los Angeles Times, et parmi eux des litiges qui concernent les libertés religieuses et les droits des homosexuels, le financement des écoles religieuses et le port d'armes en Californie. Le journal cite notamment le cas d'un boulanger dans le Colorado qui a refusé de vendre un gâteau pour le mariage d'un couple gay en freignant la loi antidiscrimination en vigueur dans cet État. Alors, on verra comment Neil Gorsuch se positionnera dans ces dossiers, écrit le Los Angeles Times. En tout cas, le collège est désormais composé majoritairement de juges conservateurs. Reste à savoir si cette institution qui tranche les grands débats de la société américaine adoptera ou non une attitude militante.
Autre sujet qui fait la une est de la presse américaine, Harim, la politique de Washington envers Damas.
Une politique qui s'est durcie, selon le New York Times, même si on a du mal à y voir l'esquisse d'une vraie stratégie. Le ton à l'égard de la Russie a également changé, alors que le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, rencontrera demain son homologue russe à Moscou. Et Tillerson est face à un dilemme, lui qui avait reçu en tant que patron de la compagnie pétrolière ExxonMobil, de la main même du président Vladimir Poutine, l'ordre de l'amitié, la plus haute distinction russe pour un civil, doit se montrer ferme face aux responsables russes. Tillerson, qui est un novice en diplomatie, a visiblement choisi d'adopter une ligne plus classique et donc plus ferme à l'égard de la Russie, estime New York Times.
Le président Trump serait donc rattrapé par l'establishment conservateur de Washington ?
C'est en tout cas l'avis du journal canadien Le Devoir. Coïncidence ou pas, écrit le quotidien de Montréal, quelques jours après qu'il eut évoqué une normalisation avec la Syrie, des images d'horreur chimique sont diffusées et le font virer capot. Eh bien, virer capot,
ça veut dire quoi ?
Expression québécoise, canadienne, comprenez le font changer d'attitude. En bombardant la Syrie, Trump fait donc volte-face et adopte la politique de ses adversaires pour alléger la pression qui s'exerce sur lui. Est-il devenu l'exécutant apprivoisé de l'establishment néoconservateur et néolibéral, ou est-ce une simple gesticulation d'un désespéré, se demande Le Devoir.
En tout cas, pas de répit dans la guerre en Syrie. Certains Syriens se souviennent donc du coup de leurs ancêtres brésiliens et ils demandent un passeport de ce pays.
Et oui, c'est un reportage à lire dans Folha de São Paulo. Le consulat brésilien à Damas reçoit environ 50 demandes de passeport par mois. Ce sont des Syriens dont les parents ou grands-parents sont nés au Brésil et rentrés au pays après la grande vague d'immigration à la fin du 19e siècle. Ces Syriens n'ont souvent que très peu de contact avec le Brésil. Ils ne parlent même plus le portugais. C'est le cas de Sama Ada, d'une mère de famille dont le fils a réussi à se réfugier en Allemagne, fille d'un couple brésilien d'origine syrienne. Elle a fait la demande d'un passeport brésilien pour, dit-elle, rejoindre son fils en Allemagne. Son objectif, s'installer avec lui en Europe ou carrément émigrer au Brésil, comme l'ont fait déjà ses grands-parents il y a presque un siècle.
Un tout autre sujet maintenant, Harim Lipold, le Venezuela, où la crise politique fait bien sûr toujours la une de la presse.
Oui, une presse divisée selon la couleur politique du journal. El Diario dos Mil Un, proche du gouvernement, donne la parole au président Nicolas Maduro, qui déclare attendre de pied ferme l'organisation des élections régionales, afin, dit-il, donner une raclée à l'opposition. Le président demande au Conseil national électoral, le CNE, d'annoncer au plus vite la date du scrutin. De son côté, le journal d'opposition El Nacional titre sur la répression des manifestations de ces derniers jours. Dans une interview, le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro, accuse le gouvernement Chavez d'utiliser la terreur comme un outil pour exercer le pouvoir, ce qui montre en fait la faiblesse du régime. D'après El Nacional, de plus en plus de civils sont d'ailleurs jugés par des tribunaux militaires. Marino Alvarado, un avocat qui travaille avec l'organisation Amnesty International, est formel. La justice militaire est un moyen important de la politique de répression du gouvernement, explique-t-il dans les colonnes d'El Nacional.
Merci Harim Lipold de cette revue de presse. Est à retrouver comme chaque jour sur RFI.fr.
Port-au-Prince. 89.3 FM.
RFI, il est 10h19 à Buenos Aires. C'est une petite révolution pour les personnes atteintes de maladies graves en Argentine. Le Parlement vient d'approuver la légalisation du cannabis pour un usage médicinal. Alors concrètement, il est désormais possible pour les patients atteints de Parkinson, d'autisme ou encore d'épilepsie de consommer du cannabis sous forme de comprimés ou alors d'huile lorsqu'il leur a été prescrit par un médecin. Un changement de législation salué par de nombreux malades, mais pas par tout le corps médical. À Buenos Aires, reportage Aude Villiers-Moriamé.
Un tonnerre d'applaudissements dans le hall du Sénat argentin. Nous sommes le 29 mars. La Chambre basse du Congrès vient d'approuver la légalisation du cannabis pour un usage médicinal. Depuis son petit appartement de Colegiales, dans l'ouest de Buenos Aires, Agostina Leguizamón a suivi le débat au Sénat avec attention. Cette Argentine de 31 ans donne quotidiennement de l'huile de cannabis à son petit garçon, atteint d'autisme. Jusqu'ici, elle le faisait de manière illégale.
L'an dernier, les thérapeutes nous ont dit qu'Arturo stagnait. Et puis ma mère nous a parlé de l'huile de cannabis. Elle avait entendu que cela pouvait aider les enfants avec des problèmes neurologiques. Quand on sait que ça peut avoir des bénéfices, les peurs passent au second plan.
Après un an de traitement, Arturo, qui a aujourd'hui 4 ans, a réalisé des progrès impressionnants.
L'huile de cannabis lui permet d'avoir une meilleure communication. Il parle de nouveau alors qu'il ne disait plus rien. Souvent, on nous juge en tant que parents, mais comment vous savez que ça fait du bien à votre fils? Eh bien parce qu'on le voit.
Des avancées qui n'ont rien de surprenante pour le docteur Marcelo Morente. Ce médecin généraliste se bat depuis des années pour faire reconnaître les vertus du cannabis médicinal. C'est lui qui est à l'origine de la loi de légalisation en Argentine.
Prenons le cas de l'épilepsie. Selon une étude de 2016 sur des épileptiques réfractaires, c'est-à-dire des personnes qui ne montrent aucun progrès, après avoir reçu de l'huile de cannabis, 50% des enfants ont réduit considérablement leurs convulsions et amélioré leur communication avec les autres, leur capacité psychomotrice. Et bien pour les autistes aussi, il est clair que le cannabis médicinal peut améliorer la psychomotricité.
La position de Marcelo Morente n'est pas partagée par tous les professionnels de santé. Eduardo Calina est psychiatre, spécialiste du traitement des addictions. Il juge la légalisation du cannabis médicinal irresponsable.
Je comprends le désespoir de certains parents, mais il faut mettre en garde contre cet usage un peu sauvage de l'huile de cannabis. Chez les jeunes enfants, la marijuana perturbe le développement des réseaux de neurones et influe sur le métabolisme du cerveau.
La loi votée en Argentine prévoit une phase de recherche scientifique qui sera supervisée par l'État. Ce dernier lancera ensuite sa production de cannabis et le mettra en vente en pharmacie. Mais ce processus pourrait prendre beaucoup de temps. Et en attendant d'avoir accès à cette production nationale, la loi argentine n'autorise pas les malades et leurs proches à avoir recours à l'autoculture, c'est-à-dire à cultiver leur propre cannabis. Malgré l'interdiction, Agostina a installé plusieurs plants de marijuana chez elle.
Alors là, on a 4 plants. Ça, c'est ce qui reste de l'huile qu'on a fabriquée. Viens, mon amour, on va boire l'huile des plantes.
Agostina et son fils Arturo peuvent compter sur la solidarité de cultivateurs comme Julian Lemus. Ce jeune homme, pro-légalisation, offre des conseils et des plants de cannabis à de nombreux malades.
Pour moi, l'autoculture vaut bien mieux que la production de l'État, d'un point de vue thérapeutique déjà. Ça fait du bien aux personnes malades de cultiver leurs propres plantes. Ensuite, je pense que l'État a les moyens de garantir que l'autoculture soit organisée de manière responsable.
Ce scénario ne convainc pas du tout le psychiatre Eduardo Calina, résolument contre l'autoculture.
C'est un cheval de Troie. Derrière l'autoculture, il y a beaucoup de personnes qui veulent fumer le cannabis et le vendre pour un usage récréatif. Pour moi, la façon dont le gouvernement de l'Uruguay a fait les choses, par exemple, est totalement irresponsable.
Pourtant, aujourd'hui, l'Argentine est bien loin de la position de son voisin uruguayen. En 2014, ce petit pays situé de l'autre côté du Rio de la Plata a été le premier au monde à légaliser entièrement le cannabis. Production, achat, consommation, pour un usage médicinal comme récréatif. Une option qui a été clairement écartée par le gouvernement conservateur de l'Argentine. Aude Villiers-Moriamé, Buenos Aires, RFI.
En bref, un informaticien russe arrêté vendredi à Barcelone, en Espagne. Il fait l'objet d'une demande d'extradition de la part des États-Unis qu'il accuse d'être lié au piratage de la campagne électorale américaine l'année dernière. Un ancien gouverneur mexicain arrêté, lui, en Italie, Thomas Yarrington, était recherché depuis 5 ans par Mexico. La justice américaine l'a inculpé en 2013, cette fois pour avoir, entre autres, aidé un cartel de la drogue en échange de millions de dollars de pots de vin.
Et puis avant avant de passer au journal de l'Outre-mer, la carte postale de Barack et Michelle Obama.
Oui, Charlotte, c'est une dépêche AFP qui nous l'apprend. Le couple prend des vacances en ce moment à Moorea, en Polynésie française. Ça fait rêver. L'ancien président a été aperçu en train de nager. L'ex-première dame s'est essayée, paraît-il, au paddle. Voilà pour les nouvelles du couple Obama. Il est bientôt 3h25 à Papété, 10h25
à Cayenne. On laisse un petit peu la musique.
Allez, on écoute encore un petit peu.
Pour l'instant, on peut toujours passer les barrages à pied ou en deux roues, mais le collectif Pour que la Guyane décolle a bien annoncé le blocus total du département. C'était hier soir à Cayenne, devant la préfecture, où l'on a compté environ 2000 personnes. Le reportage de Viviane Dofouedos.
Intervenants motivés, manifestants galvanisés sur la place des palmistes, ils décident tous de ne rien lâcher. Les uns après les autres, une quinzaine de membres du collectif Pour la Guyane décoller se succèdent sur l'estrade.
Plus jamais on se moquera de nous, plus jamais ils veulent maltraiter nous.
J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui ressemblait beaucoup à ce qui s'est passé en mai 68. Toutes ces travailleurs qui étaient présents, les inouïs continuer parce que ça y est proposé là, je ne pas suffisant.
Je demande à tous les peuples autochtones, à tous les villages de se mobiliser.
La plupart des manifestants venus faire le point sur la mobilisation se félicitent de la décision de poursuivre, voire durcir le mouvement, avec une fermeture définitive des barrages jusqu'à nouvel ordre.
Nous faisons ça aussi pour nos enfants qui viennent. Il faut qu'on règle ça maintenant.
C'est dommage pour certains qui veulent baisser les bras parce qu'ils n'ont pas compris.
Ça ne fait que 2 semaines que nous sommes en grève. On peut aller plus loin que ça et qu'il ne faut pas lâcher.
Et c'est la conclusion de Mickaël Mancé, porte-parole des 500 frères.
C'est pas juste un combat d'une ou deux semaines. C'est parti pour des années de lutte pour qu'on rattrape le retard qu'on a.
Et donc pour les voix qui s'élèvent contre ces barrages justement, qui disent qu'il faudrait que l'activité économique reprenne.
On comprend la souffrance du peuple. Maintenant, il faut laisser le temps au temps. Ils verront bien que nous ne sommes pas là pour combattre le peuple pour lequel on se bat.
En fin de soirée, le collectif n'avait toujours pas précisé quelle forme exacte prendraient les prochaines actions.
Pour qu'on vive mieux ici et on sait que rien ne nous arrêtera.
Et selon la FTPE, la Fédération des très petites entreprises, le mouvement a déjà eu des conséquences sur le tissu économique guyanais. 32 sociétés auraient fermé, ce qui aurait entraîné la suppression de 300 emplois. L'inquiétude des salariés de la société immobilière de la Guadeloupe, la SIG, une grande opération d'acquisition des sociétés immobilières d'outre-mer a été lancée. Une prise de contrôle de la Société Nationale Immobilière, filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Les instances représentatives du personnel sont actuellement en cours de consultation dans l'archipel. Les précisions d'Éric Bagassien.
Le processus est engagé. Le projet a déjà été présenté au comité d'entreprise. Le but est de fournir au SIG des DOM les moyens techniques et financiers renforcés afin de développer leur mission d'intérêt général dans le domaine de l'habitat. L'application définitive du transfert devrait être effectuée d'ici la rentrée 2018. Après consultation des instances représentatives du personnel. La Société Nationale Immobilière, société privée, filiale à 100% de la Caisse des dépôts et consignations, et l'État devrait céder sa part d'ici 5 ans. Projet de cession qui suscite nombre d'interrogations chez le personnel. Avec cette reprise par la Société Nationale Immobilière, les syndicats de salariés craignent une fusion des SIG des DOM et une remise en cause des accords collectifs.
À demain, Marie.
Merci Julie Straboni et pardonnez-nous pour le début malencontreusement coupé de ce journal de l'Outre-mer. Il avait été enregistré il y a quelques minutes.
À demain, Marie Normand. À demain. Merci à Baptiste Collion à la réalisation avant de retrouver Edmond Sadaka pour le point de l'actualité. C'est Trio Combo Brasil qui nous accompagne. Ils sont 3, donc comme son nom l'indique. Extrait du titre de leur premier album, Belliessa. À demain.
Beleza, quando te encontrar, franqueza, desde o primeiro olhar, pode parecer que juntos, felicidades.
Priorité santé, Claire Hédon.
Demain, suite de nos émissions à l'île Maurice, un pays où le diabète touche près de 20% de la population. Alors comment expliquer une fréquence aussi élevée? Quels sont les moyens de prévention, de prise en charge? Quelles sont les améliorations? Une émission enregistrée à la Clinique du Pied.
Priorité santé,
Claire Hédon.
Du lundi au vendredi, à partir de 9h10 TU.
RFI.